Éthique, 26 juin 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi.
Demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre Dame du Très Saint Rosaire.
Priez-vous.
Saint Jean.
Priez-vous.
Nous allons reprendre et terminer un sujet que nous avions déjà commencé. Ça sera une manière de terminer cette année scolaire sur l'éthique religieuse. Alors, je rappelle rapidement ce que nous avions dit et puis nous essaierons de continuer. Nous avions vu comment l'éthique au plan philosophique, nous sommes dans une recherche philosophique, comment l'éthique doit être d'abord une éthique humaine, c'est-à-dire une éthique basée, fondée sur la grande expérience de l'amour d'amitié. Il n'y a pas d'éthique sans amour spirituel. Or, c'est dans l'amour d'amitié que nous prenons pleinement conscience de ce qu'est l'amour spirituel. Et je vous avais dit ça en fonction de Nietzsche qui bombarde avec la grosse artillerie Kant. C'est intéressant de voir ça parce que c'est quand même quelque chose qui est important pour nous, de voir comment Nietzsche ne peut pas supporter une morale qui soit tout de suite une morale religieuse. C'est ça l'opposition de Nietzsche par rapport à Kant. Puisque l'impératif catégorique est pour Kant le lieu où il y a le lien avec Dieu et nous. Alors, Nietzsche ne peut pas supporter que la morale soit tout de suite religieuse. Parce que si la morale est tout de suite religieuse, alors l'homme n'est pas fondamentalement libre. Et Nietzsche donc montre que cela ne peut pas être et qu'il faut redécouvrir une nouvelle morale du surhomme. Il ne le fait pas, puisqu'au fond de fait, il n'a jamais fait, mais c'était son désir, son intention. Alors, face à cette destruction de la morale du devoir, nous devons repenser à la place de Nietzsche, mais d'une façon différente que Nietzsche, parce qu'il n'aurait pas repensé comme ça. Sa morale du surhomme serait reposée sur la créativité, tandis que nous disons que la morale humaine repose sur l'expérience de l'amour d'amitié. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Les deux points sont deux positions diverses, mais c'est important de bien situer cela. L'analyse de l'amour d'amitié conduit donc à une éthique humaine. Dans la mesure où nous découvrons l'existence d'un être premier, au plan philosophique, dans la mesure où nous découvrons la philosophie première comme théologie naturelle, c'est-à-dire comme sagesse, il y a immédiatement quelque chose de nouveau au niveau pratique. Nous découvrons à ce moment-là une nouvelle dimension de l'homme comme créature. L'homme est créé par Dieu. Cette dimension de l'homme comme créature va nous faire découvrir la dimension de l'homme religieux. Et je vous avais dit combien il est important aujourd'hui de bien distinguer la dimension de l'homme religieux de la dimension du croyant. le point de vue de la foi est surnaturel, le point de vue religieux n'est pas premièrement et fondamentalement surnaturel. L'homme est naturellement religieux. De sorte qu'une idéologie athée qui supprime la dimension religieuse de l'homme mutile l'homme. Et on a à ce moment-là un devoir de lutter pour sauver l'homme. La liberté religieuse, hein, c'est, la liberté religieuse c'est quelque chose de fondamental au point de vue humain. Et ça, c'est très important de se le rappeler. C'est très, très important de comprendre qu'il y a là quelque chose qui est capital, que le Concile, du reste, a rappelé. Et à ce point de vue-là, on comprend très bien que face aux idéologies athées, on rappelle que la liberté religieuse est quelque chose de fondamental. Et qui dit liberté religieuse dit éthique religieuse. Alors, le Concile ne parle pas d'éthique religieuse. Mais si on parle d'une liberté religieuse, on parle d'une éthique religieuse. Parce qu'il n'y a pas de liberté religieuse sans une éthique religieuse. La liberté implique toujours une responsabilité. Et donc, il y a nécessairement une éthique religieuse. Il y a une dimension d'une éthique religieuse que le Concile ne nous donne pas, mais que le Concile invite les philosophes à faire. De sorte qu'on est vraiment docile à Vatican II que dans la mesure où on fait une éthique religieuse. Si on ne fait pas d'éthique religieuse, on n'écoute pas ce que le Concile nous demande. Et le Concile nous demande de faire cela, parce qu'il s'agit de comprendre ce que c'est que cette liberté religieuse. Cette liberté religieuse ne peut être comprise qu'à l'intérieur de l'adoration. S'il n'y a pas d'adoration, on ne comprend pas ce que représente cette éthique religieuse. Donc c'est à l'intérieur même de l'adoration qu'on va comprendre cette dimension profonde d'une éthique religieuse. Cette éthique religieuse va impliquer l'adoration et la contemplation. Il y a une certaine contemplation naturelle qui relève de la sagesse, d'une sagesse acquise. On devient contemplatif en éthique religieuse. On devient un être religieux et on devient un contemplatif. Si on comprend l'exigence de l'adoration, on comprend l'exigence de la contemplation. C'est la seule manière de comprendre l'exigence de la contemplation, c'est de la comprendre d'abord par l'adoration. Adorer Dieu, parmi les activités humaines, c'est la plus grande des activités humaines. Mais cette activité qui consiste à reconnaître notre dépendance radicale à l'égard de Dieu, demande, puisque l'adoration est un acte d'adoration, est un acte d'amour, demande de connaître de la manière la plus forte ce qu'est Dieu. C'est dans la mesure où l'on aime quelqu'un qu'on veut le connaître et qu'on veut le contempler. Et donc, puisque l'adoration, c'est cet amour fondamental à l'égard du Créateur, il y a à l'intérieur même de cet amour fondamental à l'égard du Créateur un désir de contemplation. La contemplation naît à partir de l'adoration. Et la contemplation va permettre une adoration plus profonde. Autrement dit, adoration et contemplation en éthique religieuse vont de pair. On ne peut pas les séparer. Je ne peux pas dire, maintenant je suis contemplatif, j'ai plus besoin d'être religieux. Religieux dans le sens de l'éthique religieuse. Hein. J'ai plus besoin d'adorer. Je suis libéré de l'adoration. Non. Plus je contemple de cette contemplation de la sagesse naturelle, plus je veux adorer. Et plus j'adore, plus je veux contempler. C'est très très important de comprendre cela. Vous voyez, le lien n'est pas tout à fait le même que dans une éthique chrétienne. Je ne le vois pas maintenant ici, parce que si on commence, je veux rester uniquement dans l'éthique religieuse. Le lien n'est pas tout à fait le même, mais il est très important à saisir. Ça fait deux activités différentes, mais deux activités qui sont liées l'une à l'autre. C'est le côté affectif et le côté intellectuel. En comprenant que le côté affectif de l'adoration implique une connaissance et que le côté intellectuel de la contemplation implique l'amour. Je suis dans un ordre de sagesse. est dans un ordre de sagesse, la connaissance est d'ordre affective. Elle n'est pas spéculative dans le sens rationnel. Elle est spéculative dans le sens contemplatif et donc dans un sens affectif. Toute adoration présuppose une connaissance. Il faut comprendre la dépendance radicale qu'on est à l'égard de notre Créateur pour pouvoir adorer. Et pour pouvoir contempler, il faut nécessairement être poussé par l'amour. Donc, une fois que j'ai saisi ces trois aspects, nous allons essayer maintenant de bien voir les liens. Éthique humaine se finalise par l'amour de l'éthique. C'est la personne humaine, l'ami, qui est mon bien. L'éthique religieuse implique adoration. Adoration qui ne me donne aucun contact direct, aucune expérience directe de Dieu. L'adoration n'est pas une expérience de Dieu. Il faut bien comprendre. L'adoration, c'est un acte d'amour qui me met dans un état de docilité, de dépendance à l'égard du Créateur. Je peux le dire au plan philosophique. Les néoplatoniciens n'ont pas hésité de parler de Dieu comme du Père. Et Dieu est notre Père dans la mesure justement où il est source de notre vie et de notre esprit. Cette adoration va s'achever dans une contemplation. Contemplation, comprenons bien, contemplation acquise, pas une contemplation infuse, une contemplation qui relève d'une sagesse naturelle, d'une sagesse humaine. Cette contemplation, c'est un regard vers Dieu Père. Personne divine. Dieu comme première personne divine. Donc, vous voyez que nous avons là les trois points que nous devons regarder, comment l'éthique humaine se finalise dans l'amour d'amitié, comment l'éthique religieuse ouvre une nouvelle dimension affective dans l'adoration, et cette adoration me conduit à une contemplation acquise de Dieu, dans la mesure où je peux contempler Dieu naturellement. Il y a une certaine contemplation naturelle de Dieu qui relève de cette sagesse naturelle. Si on était suffisamment intelligent, nous devrions tous comprendre que c'est ce qu'il y a de plus grand au point de vue humain, cette soif de contemplation à l'égard de Dieu. De Dieu comme Père et comme Créateur. C'est toujours Dieu comme Père et Créateur, par où il y a au plus intime de moi-même une appartenance avec Dieu. Je développe à ce moment-là ce que les Grecs disaient, je développe à ce moment-là ce qu'il y a de plus divin en moi. Qu'est-ce qu'il y a de plus divin en moi? C'est justement ce qu'il y a de plus spirituel, de plus profond en moi, cette capacité que j'ai de me dépasser. Et quand le Saint-Père parle toujours du dépassement, en disant que l'anthropologie ne peut exister que dans la mesure où il y a un dépassement. Le dépassement, il est à ce niveau. Premier dépassement. Quand j'aime vraiment quelqu'un, il y a un certain dépassement. L'ami, la personne humaine, en tant qu'elle est mon bien, me permet un premier dépassement. Second dépassement, dans la contemplation. Je ne dis pas que l'adoration est un dépassement, vous voyez, puisque dans l'adoration, je suis en attente de dépendance. Ça me permet un nouveau dépassement qui est la contemplation. L'adoration, c'est un acte d'amour, mais qui ne finalise pas au sens absolu. L'adoration demande de s'achever dans une contemplation, dans un regard vers Dieu. Je ne dirais pas que l'adoration est une nouvelle finalité, non, puisque je n'atteins pas immédiatement et directement le Créateur. Je suis en attente, tandis que la contemplation est vraiment une nouvelle finalité. Donc nous avons deux grandes finalités et deux grands dépassements. Parce que quand je parle de finalité, je parle d'un dépassement. On se dépasse soi-même dans la mesure où on se relie à une personne que nous considérons comme notre bien. Donc une personne qui nous dépasse, qui est capable de nous attirer. Le bien, c'est ce qui nous attire. Alors nous avons donc l'ami, la personne amie, la personne humaine que nous considérons comme amie, qui est notre premier bien, et Dieu, qui est notre bien absolu. C'est pour ça que les anciens, et ici je parle d'Aristote, les anciens disaient l'amour d'amitié, c'est ma première béatitude, mon premier bonheur. Donc c'est ma première finalité. La finalité de l'esprit, c'est dans l'amour d'amitié. Le premier dépassement de l'homme se fait dans l'amour d'amitié. Et le bonheur absolu, c'est la contemplation à l'égard de Dieu. Donc ça a été dit, il ne faut pas dire, vous dites ça parce que vous êtes chrétien. Pas du tout. Des païens l'ont dit. Évidemment, aujourd'hui, quand on dit ça, les gens disent, oh, c'est impossible. Non, ça existait. C'est parce que nous ne sommes peut-être plus tout à fait au même niveau de la noblesse humaine. Il y a un ralenti. Et c'est vrai, ça. Il faut le considérer que des païens ont considéré que le bonheur de l'homme, c'était dans la contemplation de Dieu Père. Et ils disaient ça sans avoir la foi, et uniquement par une réflexion humaine sur la grandeur de ce que représentait l'esprit. Par où il y a une parenté avec Dieu. Alors vous voyez le problème qui va se poser maintenant. Me pose le problème en éthique religieuse. Puisque en éthique religieuse, il y a un dépassement de l'amour d'amitié. Que va devenir l'amour d'amitié, c'est-à-dire ce bonheur second, comparativement à ce bonheur premier? Le bonheur pris de façon absolue, c'est la contemplation à l'égard de Dieu. Alors, évidemment, déjà dire bonheur second et bonheur premier, c'est déjà établir un ordre. Hein. Vous voyez, donc le problème est résolu. Mais il faut voir comment je vais le résoudre. Hein. Quand Aristote dit le bonheur second deutéros, il emploie le mot deutéros, le bonheur second, c'est l'amitié, et le bonheur absolu, aplos, c'est la contemplation. Donc il met un ordre entre les deux. Alors comment établir cet ordre? C'est ça qui m'intéresse ici, vous voyez. Comment la contemplation va-t-elle modifier l'amour d'amitié au point de vue humain? Comment la contemplation va-t-il permettre à l'amour humain de rester une véritable finalité? Ou au contraire, comment la contemplation, cette contemplation naturelle de Dieu créateur, va-t-elle relativiser ce bonheur second d'une façon telle qu'il ne sera plus fin? Vous voyez bien que dans le langage, c'est déjà très curieux de dire une finalité seconde. Qui dit fin, télos. Qui dit fin, dit quelque chose d'ultime. Ce au-delà de quoi je ne peux pas remonter. Autrement, ce n'est plus une fin. Il faut comprendre ça. Une fin intermédiaire, ce n'est pas une véritable fin. Alors, est-ce que lorsque je découvre une nouvelle finalité dans mon éthique religieuse, et que je découvre une nouvelle finalité humaine, qui est la contemplation par l'adoration, la contemplation du Créateur, est-ce que ce bonheur premier, ce bonheur pris d'une façon absolue, relativise le bonheur de l'amour d'amitié d'une façon telle que ce n'est plus une finalité? faut se poser le problème, hein, parce qu'autrement, Aristote ne l'a pas posé. Et je crois que c'est assez compréhensible qu'il ne l'ait pas posé, mais nous devons nous le poser, nous. Nous devons nous poser cette question-là. Ce qui fait que quelquefois, on considère si facilement Dieu comme un rival. Ça existe. Des gens qui s'aiment beaucoup, qui s'aiment énormément, qui découvrent l'amour d'amitié avec tout l'absolu que ça représente. Ils ont très peur de Dieu. Quelquefois. Ils ont très peur. C'est-à-dire, mais si Dieu intervient, alors nous ne serons plus l'un pour l'autre notre propre fin. Alors on considère Dieu comme un rival. Ou, si on est chrétien, le Christ. Il ne faut surtout pas que ma fiancée, que ma femme soit contemplative, parce qu'alors c'est fichu. C'est absolument fichu. Il n'y aura plus d'amour d'amitié. C'est terminé. Parce qu'il y aura donc l'intervention de Dieu. On voit très bien ça. C'est humain. Aristote s'était posé le problème. Faut-il souhaiter à mon ami de devenir Dieu ? Il dit, ah non, il ne sera plus mon ami. Il n'a pas posé le problème de cette manière. Soit-il souhaité à mon ami d'être un contemplatif ? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, faut-il souhaiter à mon ami d'être Dieu ? C'est différent. Alors, si je prends d'une façon absolue sa question, faut-il souhaiter à mon ami d'être Dieu ? Je comprends très bien. S'il devient Dieu, il ne sera plus mon ami. Il ne sera plus qu'avec les dieux. Il ne sera plus sur la terre. Faut-il souhaiter à mon ami d'être un contemplatif ? Oui. Il sera encore plus mon ami. Voilà ce que je dois répondre. Il faut bien comprendre. Alors, première chose, supprimons ce qui si facilement devient l'obstacle. On considère Dieu comme un rival. Imaginativement. Je crois que dans beaucoup d'athéismes modernes, c'est ce qui existe. Dieu est considéré comme le rival. Dans Nietzsche, c'est très net. Hein. Si Dieu existe, il est le créateur, alors je ne serai plus créateur. Et Nietzsche n'hésite pas de dire, puisque je suis créateur, Dieu n'existe pas. Donc on considère Dieu comme un rival. Le rival au niveau de la création, le rival au niveau de l'amour. Donc la première chose qu'on doit comprendre au plan philosophique, c'est que Dieu ne peut pas être un rival. Un rival, c'est celui qui est au même niveau que nous. Celui qu'on est capable de jalouser. C'est ça le rival. Les Grecs disaient l'aide est rival de l'aide. Aujourd'hui, on dit l'avocat et rival de l'avocat. Ou on peut dire aussi, n'est-ce pas, que le psychanalyste est rival du psychanalyste. Dans les milieux psychanalystes, c'est ce qu'ils disent. Ils se renvoient la balle comme ça. C'est-à-dire, tout simplement, je prends des clients du voisin. On est rival parce qu'on prend des clients du voisin. Alors on devient rival. Et alors l'autre jalouse. Si au contraire, je suis dans une perspective tout à fait différente, quelqu'un qui habiterait la Lune, pourrait-il être mon rival ? Non, aucun danger. Les distances sont trop grandes. Si, au contraire, on est dans le même genre, on est tout proche, on est dans le même genre. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de commun et qui reste quelque chose de très profondément commun. Alors, il peut y avoir une jalousie. Et la jalousie est source de rivalité. Ou la rivalité est source de jalousie. Ça dépend. Pour certains, c'est la rivalité qui est source de jalousie. Pour d'autres, c'est la jalousie qui est source de rivalité. Les deux peuvent se comprendre, du reste, parce que ça se tient toujours un peu. Mais le rival, c'est celui qui est au même palier, qui est dans le même genre, et qui s'oppose. Et qui risque de s'imposer d'une manière telle que moi je vais disparaître. Et c'est pour ça qu'il est mon rival. On ne regardera plus que lui. Si on ne regarde plus que lui, on ne me regardera pas. Et par le fait même, il devient celui qui passe devant moi. Et c'est pour ça qu'il est un rival. Dieu ne peut pas être rival de l'homme. Pourquoi ? Parce que Dieu est source de ce qu'il y a d'essentiel dans l'homme. Son être, sa capacité d'aimer, sa capacité de rechercher la vérité, source de son esprit. Si Dieu est source, alors c'est bien de cette manière dont je parle de Dieu. Dieu est créateur et père. Il est source de ma vie spirituelle. Il est source de mon âme spirituelle. Philosophiquement, je peux le dire. Dieu est source de mon âme spirituelle. Si Dieu est source de mon âme spirituelle, Dieu ne peut pas être mon rival. Puisque je dépends radicalement de lui. Et tout ce que j'ai de grand vient de lui. Donc Dieu ne peut pas être rival. Si Dieu était sur le même palier que moi, au point de vue de mon être et au point de vue de ma vie, il pourrait être mon rival. Il pourrait grandir, et par le fait même, moi je serais obligé de diminuer. N'est-ce pas ? Celui qui accepte de diminuer pour que l'autre grandisse, il s'efface pour que l'autre prenne tous ses droits, et qu'il soit justement premier. Alors là, c'est l'effacement, c'est l'humilité, la pauvreté de celui qui s'efface pour que l'autre passe. Quand on aime beaucoup quelqu'un, on peut faire ça. Il faut un très grand amour. Quand il s'agit de Dieu, ça s'impose d'une façon telle que Dieu ne peut pas être un rival. Nous ne faisons pas nombre avec Dieu. Cette expression qui est très belle, ne pas faire nombre. C'est-à-dire que justement, nous n'ajoutons rien à Dieu. Et par le fait même que nous n'ajoutons rien à Dieu, Dieu est source absolue de ce que nous sommes. Et donc Dieu ne peut pas être rival. C'est très important de comprendre ça. Si Dieu ne peut pas être rival, je comprends que la contemplation de Dieu va me permettre de me finaliser pleinement, puisque je retourne à ma source. Revenir à sa source, c'est de pouvoir être pleinement soi-même. Dieu est source et il est fin. Il est mon bien par excellence. Et en rejoignant Dieu par la contemplation et par l'adoration, je m'épanouis pleinement. C'est mon bonheur. Et parce que c'est mon bonheur, je suis lié à ce qui est mon bien le plus grand, mon esprit dans ce qu'il a de plus profond au point de vue de sa capacité d'aimer comme sa capacité de rechercher la vérité, s'épanouit pleinement. La contemplation, c'est la respiration la plus profonde de mon âme et de mon âme spirituelle. À ce point de vue-là, si je contemple, mon âme s'épanouit pleinement et totalement. Et donc, je deviens parfait, au sens philosophique, c'est-à-dire je retrouve ma source et mon bien, et je peux m'épanouir pleinement. Il y a comme un certain repos. Quand on dit que la contemplation est un repos, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on trouve le lieu où on peut s'épanouir pleinement. On retrouve le lieu où l'exercice le plus profond de notre intelligence et de notre amour se réalise pleinement. Donc, on est pleinement ce qu'il y a de meilleur en nous, par la contemplation et par l'adoration. Alors vous commencez à comprendre que si par la contemplation, je m'épanouis de la manière la plus forte qui soit, la plus plénière qui soit, je deviens bon, parfait et bon. Je ne suis parfait que lorsque j'atteins ma fin, lorsque j'atteins mon bien, et que je me laisse attirer par lui. Se laisser attirer par son bien propre, c'est s'épanouir pleinement. Et donc, c'est participer à la bonté même de celui qui est ma source. Si la contemplation permet cet épanouissement plénier de mon être, de mon esprit, vous comprenez que la contemplation ne peut pas être rivale de l'amour d'amitié, mais peut au contraire permettre à l'amour d'amitié de trouver un nouvel épanouissement. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors à ce moment-là, il n'y a plus possibilité de considérer Dieu comme un rival. Il y a, au contraire, on considère que Dieu permet à mon ami, à celui que j'aime, à celui qui est mon bien, permet à mon ami d'être encore meilleur et donc d'être davantage mon bien. Et s'il est davantage mon bien, il va éveiller en moi un nouvel amour. Donc une possibilité nouvelle de l'aimer. Plus je découvre dans mon ami sa profondeur, plus je découvre en lui sa perfection. Et pas une perfection secondaire, une perfection essentielle. Plus je me vois pleinement finalisé, plus il peut être mon bien et plus il peut m'attirer. C'est pour ça que la contemplation, loin d'être rivale de l'amour d'amitié, devient au contraire ce qui permet à l'amour d'amitié d'aller plus loin. Parce qu'il permet à l'ami qui contemple de découvrir plus profondément, ce qui permet à l'ami qui contemple d'être meilleur, d'être plus lui-même, et donc d'être pour moi un bien plus parfait. Je précise pour que vous voyez bien ça, parce que je crois que c'est très important. Nous allons voir les difficultés après, hein, parce que ça, vous allez me dire, c'est théorique. Je regarde les principes au point de vue philosophique. Hein. Je regarde les principes et je vois que prétendre que Dieu peut être rival de l'homme, c'est une bêtise. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est-à-dire, c'est pas comprendre ce qu'est Dieu. Et c'est oublier de comprendre ce qu'est mon ami. Donc il y a une double bêtise. Parce que l'ami, c'est mon bien. Si j'aime quelqu'un, je n'ai qu'un seul désir, c'est qu'il soit le plus parfait possible. Pour lui-même et en lui-même. Autrement, je ne l'aime pas vraiment. Si je l'aime vraiment, je veux son épanouissement le plus parfait possible. Or, l'épanouissement le plus parfait possible que mon ami peut avoir, acquérir, c'est de contempler Dieu, de l'adorer, le contempler. Et donc, par le fait même, si je l'aime vraiment, je n'ai qu'un seul désir, c'est qu'il puisse adorer et contempler Dieu. Et je sais qu'à partir de là, il sera le meilleur possible qui soit, puisqu'il atteint le bonheur parfait. Là-dessus, vous ne pouvez pas mettre d'objection. C'est absolument nécessaire. Si l'ami aime bien et que je l'aime pour lui-même, je n'ai qu'un seul désir, c'est qu'il soit le plus parfait possible. Pas à la manière dont je désire, hein. Ça, ce ne serait pas vrai. Aimer quelqu'un pour moi-même, ce n'est pas l'aimer vraiment. L'aimer quelqu'un pour moi-même, ce n'est pas l'aimer vraiment. Ce n'est pas aller jusqu'au bout des exigences de l'amour. Ça vous retombe sur le dos, ça, c'est nécessaire. Parce qu'un amour demande de croître tout le temps. Et un amour peut croître tout le temps dans la mesure où on aime l'autre pour lui-même, comme mon bien. Et quand je dis mon bien, c'est celui qui m'attire. Donc c'est celui qui m'a grandi. Quand j'aime quelqu'un comme mon bien, il m'a grandi. Je suis attiré par lui. Tandis que quand je l'aime pour moi, nécessairement, je le ramène à moi. Alors ça devient un amour captatif. Et vous savez très bien qu'un amour captatif ne peut pas être un véritable amour. Ah, c'est pas commode, hein ? C'est une des choses les plus difficiles, hein, d'aimer vraiment. C'est la chose la plus grande au point de vue humain, la plus grande. C'est la première chose la plus grande. Aimer vraiment d'un amour d'amitié. D'aimer l'autre pour lui-même, comme un absolu. L'ami reste un absolu, puisque je l'aime pour lui-même. Alors si je l'aime pour lui-même, je n'ai qu'un seul désir, c'est qu'il soit parfaitement lui-même. Et la créature ne peut être parfaitement elle-même qu'en rejoignant Dieu par l'adoration et la contemplation. Et donc l'amour d'amitié devrait aider à l'adoration et à la contemplation. C'est vrai. Puisque, de fait, on s'aime l'un et l'autre pour que l'un et l'autre, nous soyons le plus parfait possible. On aille le plus loin possible. On s'entraide pour ça. On veut s'aimer pour que, de fait, l'ami soit parfaitement lui-même dans ce qu'il a de plus profond. Et l'autre, de la même manière. Donc, on devrait comprendre que si Dieu existe, alors on se demande s'il existe vraiment et si dans la mesure où on découvre l'existence de Dieu, ou par les traditions religieuses, ou par la réflexion qu'on découvre que nécessairement il y a un créateur, à ce moment-là, on comprend qu'être uni à ce créateur par l'adoration et la contemplation, c'est ce qu'il y a de meilleur en nous. Donc, vous voyez comment il n'y a pas de rivalité, il y a au contraire une coopération. Alors, c'est peut-être très important de voir ça, parce que ça nous fait comprendre justement comment, dans le domaine des finalités, il ne peut pas y avoir de rivalité. J'allais dire que la finalité, c'est quelque chose de trop grand. La rivalité est à l'égard des petits, ou des moyens plus exactement. Ce n'est pas les petits, c'est les moyens. Les tout petits n'ont pas de rivalité, mais les moyens ont des rivalités. Ils sont dans la même classe. Hein. Alors il y a des rivalités. Tandis que quand il s'agit de la finalité, il s'agit d'être principe. Un principe, il est toujours un absolu. Il n'y a pas de rivalité au niveau des absolus. C'est ça qui est merveilleux. Les principes, ils se saluent avec beaucoup de grandeur. Parce qu'ils sont principes. Il faut comprendre ce que c'est qu'un principe, il faut comprendre ce que c'est qu'un absolu. Un absolu reconnaît un autre absolu. Il reconnaît à des niveaux différents. Alors, il y a l'absolu à ce niveau. L'ami est un absolu. Au niveau humain. Et ça, on le dira spontanément. Au niveau humain, on considérera son ami comme ce qu'il y a de meilleur parmi tous les hommes. Je t'ai découvert, c'est merveilleux. Le monde peut crouler, on s'aime. C'est évident. Ça, c'est le langage nécessaire de l'amour. Ça ne peut pas être autrement. C'est l'absolu. Ça, c'est la grandeur de l'absolu. On devient un tout. Parce que c'est la personne humaine. La personne humaine, on découvre, la personne humaine est nécessairement un absolu. L'autre absolu, c'est Dieu. C'est curieux qu'à l'égard de ces deux absolus, il y a un très grand respect. Dieu respecte l'ami, parce que Dieu respecte l'absolu de la personne humaine. Et la personne humaine respecte Dieu, parce que c'est l'absolu encore plus grand. Je crois que c'est important, c'est ça. Il y a une espèce de... Vous savez, il y a une éthique des absolus. Ce serait intéressant de voir ça. L'éthique des absolus, c'est justement juste l'inverse de l'éthique de la masse. Je ne dis pas l'éthique des élites, hein, j'aime pas ça. J'aime mieux dire l'éthique des absolus. C'est plus vrai. C'est beaucoup plus vrai. L'éthique des absolus, c'est justement ce point de vue de la personne humaine qu'on aime comme mon bien. Donc, voyez bien, pas de rivalité. Alors, dernier problème, je vois qu'il peut y avoir une coopération, et que normalement, il doit y avoir une coopération. C'est que plus je vais loin dans la contemplation, plus je vais loin dans l'adoration et la contemplation, plus je découvre la profondeur de mon esprit, de mon intelligence et de ma capacité d'aimer. Plus je découvre qu'il y a en moi quelque chose d'infini. C'est dans la mesure où j'adore et je contemple que je découvre qu'il y a en moi quelque chose d'infini. Capax Dei. On est capable de s'ordonner à Dieu. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Alors vous voyez bien. Si par l'adoration et la contemplation vous êtes ordonné vers Dieu, il y a quelque chose de divin en vous qui s'épanouit. Et c'est vrai, il y a quelque chose de divin en nous qui s'épanouit. Et le vieil Aristote le disait. Mais tout notre effort pour la contemplation, c'est nécessairement plaire le plus à Dieu. Puisqu'on cultive en nous ce qu'il y a de meilleur. Cultiver en nous ce qu'il y a de meilleur, par où nous sommes semblables à Dieu notre Père, c'est nécessairement s'approcher de Dieu. Si je me grandis et que je découvre qu'il y a en moi quelque chose d'infini, je découvre le même absolu, le même infini dans mon ami. Et donc, je découvre en lui une capacité encore beaucoup plus grande de m'attirer. Et je l'aime encore plus. Et je comprends qu'il est vraiment un absolu parce qu'il y a en lui quelque chose d'infini. Un absolu demande toujours d'être quelque chose d'infini. Or, je découvre qu'il y a en moi quelque chose d'infini dans la mesure où j'adore et je contemple Dieu. Et dans la mesure où j'adore et je contemple Dieu, je découvre cette capacité d'infini qui est en moi. Vous allez me dire, ah oui, mais c'est uniquement d'ordre intentionnel. Et donc, c'est le point de vue de la... Ah non, c'est plus, c'est dans la contemplation. C'est un intentionnel qui fait que je touche vraiment quelque chose d'absolu. Alors, à ce moment-là, je découvre qu'il y a en moi quelque chose d'absolu, quelque chose d'infini, et je le découvre par le fait même aussi dans mon ami. Vous voyez ? Il y a comme une espèce de j'allais dire... On n'est plus deux seulement, on est trois. Mais le troisième, il ne fait pas nombre. D'habitude, quand on est trois, vous savez bien la situation en triangle, hein, la situation en triangle est très gênante pour l'amour d'amitié. C'est très gênant, c'est pour ça que nécessairement, quelqu'un qui aime profondément quelqu'un d'autre, nécessairement, les amis d'avant vont tomber un tout petit peu à l'ombre. On va les écarter, forcément. Parce que si l'autre m'attire pleinement, je serai tout entier à lui. Donc la situation en triangle est toujours très difficile au point de vue de l'amour d'amitié. Ici, j'ai une situation en triangle. Pourquoi ? Parce que j'ai l'ami, et j'ai Dieu. Mais Dieu ne fait pas l'ombre. Donc c'est plus une situation en triangle. Ça, les psychologues ne peuvent pas le comprendre. Ce n'est plus une situation en triangle. C'est une situation, une nouvelle dimension. L'ami, en contemplant Dieu, découvre qu'il a une dimension infinie. Et découvrant qu'il a une dimension infinie, il la découvre nécessairement dans son ami, qui lui-même cherche à contempler Dieu. Et c'est pour ça qu'Aristote dit que l'amitié entre les contemplatifs, c'est la plus grande des amitiés. L'avez-vous, ça ? L'amitié dans les contemplatifs, c'est la plus grande des amitiés. Parce qu'à ce moment-là, je découvre qu'il y a dans la vie quelque chose d'infini. Et je le respecte infiniment, et il me respecte infiniment. Et en même temps, il m'aime comme absolu. Donc, voyez, que je dis ça parce que c'est important. Très facilement, nous faisons une métapsychologie. Hein. Alors, la situation en triangle nous gêne. Parce que le troisième, c'est toujours un peu le rival, au point de vue humain. Toujours un peu. Alors, il faut comprendre que lorsqu'il s'agit, au point de vue philosophique, quand il s'agit vraiment de la contemplation et de l'amitié, le troisième ici, c'est Dieu, ce n'est plus une situation en triangle.
Il est présent au plus intime des deux.
Il ne fait pas nombre. Et donc, ce n'est plus une situation en triangle. C'est au contraire quelque chose qui va permettre d'aller plus loin. Alors, dernière remarque. Ceci, c'est très bien au point de vue de la finalité. Mais comme la finalité implique toujours un certain conditionnement, l'amour d'amitié réclame du temps. C'est bien évident. Les anciens le disaient. Il faut passer beaucoup de temps avec son ami pour pouvoir l'aimer vraiment. Il faut du temps. L'amour d'amitié, ça peut jaillir d'un seul coup, mais on sait très bien que cet amour qui jaillit d'un seul coup demande de s'incarner. Demande de tout prendre en nous. L'union affective réclame l'union effective. On le sait bien. Et donc, il faut du temps. Ah, alors là, conditionnement humain. S'il faut du temps, le temps que je donnerai à l'adoration et à la contemplation, il est pris sur le temps de l'amitié. Ah, c'est bien évident. Le temps qu'il me faut pour adorer Dieu et contempler Dieu, il est pris sur mes relations d'amitié avec mon voisin ou avec mon ami. Je ne vais pas dire « arrête-toi soleil, hein, je veux aimer ». Et puis après, ce serait merveilleux. Si chaque fois que j'adorais Dieu, le soleil s'arrêtait, parce que je suis dans l'éternité, le soleil s'arrête. Alors, tu vois bien, on dirait ça à son ami, tu vois bien. Je ne te prends aucun temps. C'est pour Dieu ce temps. Et tout mon temps est à toi. Dans l'amour d'amitié, on réclame le temps de l'ami. S'il faut réclamer du temps pour Dieu, on dit « Ah, c'est ennuyeux ». Donc, au niveau du conditionnement, c'est-à-dire au niveau de l'exercice, la rivalité réapparaît. Ça, il faut le reconnaître. Le temps que je donne à la prière, à l'adoration et à la contemplation, c'est du temps qui est pris au travail, il est pris au temps de l'amour d'amitié. Le travail peut devenir rival à cause du temps que j'emploie pour travailler. Alors, je crois que là, il faut être très lucide. Il ne faut pas vouloir éviter le problème. Nous sommes des êtres conditionnés et nous sommes des êtres dans le temps. Le réalisme de l'amour réclame qu'on voit avec beaucoup de lucidité que nous sommes des êtres conditionnés et que notre amour se réalise dans le temps. L'amour en lui-même n'est pas mesuré par le temps. Je ne veux pas dire à quelqu'un « je vais t'aimer un quart d'heure ». Après, on verra. Non, c'est impossible. L'amour n'est pas mesuré par le temps. Mais le conditionnement de notre vie est mesuré par le temps. Je suis en présence de quelqu'un pendant un certain temps. Je n'ai pas plus que ça. Donc c'est le conditionnement, ce n'est pas l'amour. L'amour n'est pas mesuré par le temps. L'amour, il a quelque chose d'éternel. Je ne dis pas que c'est l'éternité. Il a quelque chose d'éternel. Il est au-delà du temps. Mais l'exercice de cet amour est conditionné. Donc il faut le savoir. Il faut être parfaitement conscient que si j'aime vraiment quelqu'un, je l'aime dans tout son conditionnement. Puisque je l'aime pour lui-même, tel qu'il est. Pas d'une façon idéale, mais tel qu'il est. Or, il est conditionné par le temps. Il faut donc que mon amour vis-à-vis de lui soit suffisamment fort pour que je comprenne qu'il lui faut du temps pour prier et contempler, qu'il lui faut du temps pour travailler. Et j'accepterai, c'est parti d'un certain sacrifice, hein. Il y a un sacrifice, hein. Tout amour réclame un sacrifice. Et c'est peut-être dans la mesure où le sacrifice est lucide et offert généreusement qu'on mesure la qualité d'un amour. Vous voyez, le sacrifice intervient là, c'est très curieux au point de vue philosophique. C'est au niveau du conditionnement qui peut réaliser comme une certaine rivalité. Alors, quand j'aime avec suffisamment de générosité et suffisamment de vérité mon ami, je suis capable d'accepter un sacrifice pour lui, pour qu'il soit plus lui-même. Et je sais très bien qu'en faisant ça, je me retrouverai, hein, parfaitement. Ce n'est pas une récupération. C'est tout simplement savoir que permettre à mon ami d'être plus lui-même, c'est me permettre de l'aimer plus. Donc c'est un sacrifice qui est entièrement porté par l'amour. Ce n'est pas une résignation. La résignation consiste à dire, je sais très bien que si je ne lui accorde pas ce temps pour la prière ou la contemplation et le temps pour le travail, il sera d'une humeur massacrante. Alors j'aime mieux qu'il soit de bonne humeur quand je le vois, parce qu'au moins ce temps ne sera pas perdu. Tandis que s'il est d'humeur massacrante, ça n'ira pas. La résignation, c'est ça. Alors on accepte à cause de l'humeur massacrante. Tandis qu'au contraire, si en toute lucidité, vous dites « je veux qu'il soit pleinement lui-même, je veux qu'il aille le plus loin possible dans ce qu'il doit être lui-même, dans son épanouissement », alors à ce moment-là, j'accepte. C'est un sacrifice, oui, puisque c'est nécessairement quelque chose qui m'enlève la joie de me retrouver avec lui. J'accepte cette séparation pour qu'il soit parfaitement lui-même. Oui, donc c'est à travers l'amour que je porte ce sacrifice, ce temps que normalement j'aimerais passer avec lui, j'aimerais vivre avec lui, j'accepte cela pour qu'il soit plus lui-même. Donc vous voyez, hein, que si je confonds finalité et conditionnement, Dieu sera tout de suite un rival. Si je confonds conditionnement et finalité, le travail deviendra un rival. Et l'amour d'amitié, petit à petit, à la place de s'épanouir, va diminuer. Je crois que cette distinction est capitale pour nous. Bien saisir ce que représente l'amour d'amitié dans ce qu'il a de plus profond, toucher un absolu, l'ami comme mon bien, et découvrir que cet amour ne supprime pas mon conditionnement, au contraire, il me fait comprendre avec beaucoup plus de lucidité ce que représente mon conditionnement humain. Parce que je suis un être qui doit croître, parce que je suis un être qui est dans le temps, parce que je suis un être qui a un corps, une sensibilité, je suis limité. Nécessairement, je suis mesuré par le temps. Et donc j'accepte ce conditionnement et j'essaie de faire que ce conditionnement soit pleinement accepté pour que l'amour progresse en moi.